On est toujours sur du radio, en direct d'Offprint, ici donc pour ce moment en partenariat avec le CNAP. Pour continuer un petit peu cette série d'entretiens autour des éditeurs et du graphisme, donc, j'invite ici François Gérard Meunier, donc, qui est graphiste à Amsterdam et qui va un petit peu nous parler de sa maison d'édition et de sa pratique en général. Donc bonjour François.
Salut, ça va?
Ça va et toi? François, toi, tu habites à Amsterdam. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta pratique au quotidien?
Mon Dieu, ma pratique, c'est essayer de se lever le matin tôt, répondre à ses emails, aller à ses side jobs, servir de la bouffe le week-end pour des clients. Mon Dieu, faire du design graphique aussi, coder des sites web. Lire des textes. C'est un paquet de trucs, en fait. C'est de la belle jonglerie, ce truc. Ouais.
Donc, toi, tu as étudié à la Rietveld et ensuite à la Sandberg.
Ouais,
c'est bien
exactement,
ça.
Exactement.
Et c'est donc à la Sandberg ou à la Rietveld que tu as commencé une maison d'édition qui s'appelle Super, 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 quatre fois.
En fait, ouais, quatre fois. Très important parce que là, des fois, en fait, mais c'est un peu le jeu. C'est que des fois, au début, on s'est dit, bon, trois fois, le nom de domaine, je pense qu'on ne pouvait pas l'acheter. Donc, on a mis quatre fois. Puis en même temps, ça fait toujours de la confusion. Ah, trois fois, deux fois, quatre fois. Et là, en fait, c'est drôle parce que je pense que dans les emails que j'avais reçus d'Offprint, c'était trois fois. Et même dans le pré-programme, c'était trois fois. Et je me suis dit, bon, ils vont avoir imprimé trois fois. Puis en même temps, je me suis dit, bon, tu sais, je peux être picky. Au début, les gens sont picky. Je pense que Print and Matter, genre, il y a trois ans, je leur envoyais des emails pour leur dire, ouais, mon nom est faute d'orthographe et tout. Mais maintenant, j'étais comme, bon, c'est peut-être un peu trop de travail, peut-être, d'envoyer des emails. Enfin, c'est sûr que si on est un peu de rigueur, des fois, c'est bon, mais des fois aussi, je ne sais pas trop si ça vaut la peine. Mais oui, en fait, c'est après la Rietveld, donc en 2015. Je suis diplômé avec, entre autres, Émilie Ferrat, qui habite à Paris maintenant, qui est aussi designer graphique. Et Liven Lai, qui travaille à la bibliothèque à la Rietveld, okay. Et qui avait diplômé de Fine Arts. Et donc, en fait, l'idée, c'était, on s'était rendu compte qu'on faisait des éditions qu'on trouvait quand même assez, on était assez calés, intéressés dans le monde de l'édition, mais surtout au niveau de la production, au niveau de travail avec des gens. Et donc, forcément, il y a l'aspect de la distribution qui arrive à un certain moment. On se dit, bon, tout ça, c'est bien beau, on travaille beaucoup sur ces choses-là, mais comment on fait pour les partager à des gens? Et les rendre visibles. Donc, en fait, on s'est rendu compte aussi que, bon, on peut vendre à Amsterdam directement, bon, des bookshops à gauche, à droite, on a certains amis, mais pour avoir une certaine visibilité, en fait, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'aller dans l'effort du livre. Et en même temps, c'est un milieu qui nous était totalement un peu inconnu, et aussi, je pense qu'il y a une espèce de, pas une fantaisie ou une mythologie. Quand tu étudies dans une école d'art, bon, tu vas dans les foires du livre, c'est beau, tu vois toutes ces belles publications. En fait, tu vois pas la réalité de la production du livre, mais tu vois une espèce de finalité. Et nous, en fait, ouais, ça nous intéressait justement de prendre l'autre côté de la table, en fait. Puis, je dirais que ça nous a donné quand même beaucoup de visibilité depuis. Aussi, une visibilité qui est différente. Ça nous a permis aussi de rentrer dans un... En fait, on a plus de contrôle au niveau économique, c'est-à-dire que si on fait affaire avec un distributeur, on ne sait jamais qui va voir les livres. Il y a toujours une cote, en fait, qui est prise du livre, la cote de distribution. Puis, des fois, ça peut être très difficile aussi de retrouver, en fait, d'être payé.
Ouais.
Donc, c'est une manière qu'on a trouvée, en fait, de faire en sorte d'être sustainable d'une certaine manière.
OK. Et du coup, les livres que vous éditez, donc... Si je comprends bien, c'est trois personnes, donc toi, Émilie et l'autre personne.
Mais en fait, ouais, c'est ça, c'était au début.
Voilà.
Puis en fait, depuis, le noyau, c'est un peu pas désagrégé. Bon, on a chacun trouvé en fait différentes choses sur lesquelles on travaillait. Mais en même temps, en fait, en utilisant ce label-là, c'est-à-dire que par exemple, là, c'est plus moi en fait qui fait la gestion de ce truc-là. Mais par exemple, Émilie, là, elle m'aide à Offprint, entre autres. Puis ça permet aussi de... Genre, en fait, on publie pas, en fait. C'est ça. On n'est pas une maison d'édition. On est
D'accord.
plus genre comme un label de distribution.
D'accord.
Et toutes les publications, en fait, qui sont présentées sont des publications qui sont auto-éditées, donc qui n'ont pas de distributeur, qui sont éditées à compte... Je sais pas si à compte d'auteur, c'est un terme qui est utilisé parfois, mais qui, je pense qu'il y a une certaine connotation. Mais dans notre cadre, en fait, souvent, c'est des projets qui ont lieu il y a un grant, il y a un projet d'exposition ou il y a une biennale, il y a une publication qui est produite. Puis par la suite, en fait, ben, la, cette publication-là, elle n'est pas distribuée vraiment. Donc, en fait, avec des amis, des gens qu'on, de notre réseau à Amsterdam, je me rends compte, bon, ah, cette publication-là, elle est géniale, elle est produite pour tel contexte. Puis, ce serait bien de la présenter, en fait. Donc, c'est un peu comme ça qu'on...
D'accord. Et donc, il y a des livres de vous, des livres d'autres personnes. C'est un peu
ouais,
tout le monde.
Un genre de bric-à-brac. Ouais.
OK. Ouais. Très bien. Et du coup, l'économie de, ce, de cette... Enfin, de cette... qui n'est pas une maison d'édition. L'économie de super, c'est comment ça fonctionne, en fait? Qui, enfin, où est l'argent? Enfin, où vous trouvez l'argent pour éditer les livres? Où vous trouvez l'argent pour payer, par exemple, une table dans un ouais. salon comme celui-là?
Mais en fait, l'argent pour... C'est ça l'idée, c'est que puisqu'on n'est pas vraiment de maison d'édition, c'est-à-dire que l'aspect production, en fait, c'est quelque chose qui est géré par les gens, en fait.
D'accord, c'est-à-dire par les commanditaires, en fait.
C'est indépendant, en fait. C'est-à-dire que si super ne serait pas là off-print, les livres existeraient quand même.
OK.
Donc, dans certains cas, genre... Signals from the Periphery, ça, c'est Elisabeth Clement et Laura Papa. C'est un projet qui a eu lieu à Tallinn l'année dernière. Et donc, ils ont eu des fundings, je crois, du Streaming Fonds. En fait, plusieurs organismes. L'expo a eu lieu en Estonie. La publication a été produite, le catalogue dans le cadre de l'exposition. Bon, maintenant, je pense que le catalogue est vendu, je pense, After Eight Books devant ici.
Oui.
Et sinon, peut-être qu'il est distribué par RVB Book, mais je suis vraiment pas très sûr. Mais je sais qu'ils ont une page en ligne, on peut l'acheter, genre directement d'Elisabeth et Laura. Mais le livre, en fait, c'est ça, il a été payé produit par ce modèle économique-là. Et aussi, j'ai une publication que j'ai faite avec Émilie pour un projet qu'on avait fait sur un musée de la peinture à numéro à Brno. Et donc, nous, ce projet-là a été sponsorisé par le Streaming Sponsor. Donc, c'est une partie de ce budget-là, en fait, qui a servi à la production. Aussi, j'ai un autre livre. En fait, j'ai deux livres. J'ai un livre de Critical Studies, des Masters de la Sandberg Institute. Qui a été produite par le budget de ce département-là. J'ai aussi un livre, un novella que j'ai écrit sur un travailleur dans un call center. Et ça, en fait, c'est un livre que j'ai produit de mes poches. Donc, c'est-à-dire, c'est payé d'une certaine manière par le call center, si on pense à rebours. Donc, je ne sais pas, admettons, tu mets 300-400 euros, tu produis le livre, tu prends deux semaines pour l'imprimer en réseau, tu le relis toi-même, tu mets ça dans des boîtes, puis ensuite, à chaque foire, admettons, tu en vends 10. Donc, à chaque foire, mettons, tu fais 100-150 euros. Donc, c'est sûr qu'au début, bon, après deux foires, admettons, tu as payé ta production, puis après ça, c'est de l'argent en plus. Donc, l'idée, c'est, en fait, il y a une partie, en fait, c'est un peu comme un shop, c'est-à-dire que 50% est réservé pour la vente et 50% pour le reste. Bon, c'est un peu merdique parce que, c'est-à-dire, dans ce sens-là, les auteurs, éditeurs, designers, habituellement, c'est très minime ce qu'ils obtiennent. Mais en fait, en cadrant comme ça, je me dis, la table, en fait, elle est payée d'avance par moi.
Mm-hmm.
Et avec les ventes, en fait, à la fin, je soustrais, en fait, certains montants, la pile de la table, exactement. Puis ensuite, il y a une certaine attente, c'est-à-dire que moi, en venant ici, maintenant, j'ai l'expérience de savoir que je vais pouvoir payer le prix de la table.
Okay.
Mais la première fois, je suis venu dans une foire du livre. En fait, je suis allé à New York et c'était très... j'étais très anxieux parce que c'est 750 $ une table. Bon, on avait eu un bon deal, on avait payé 400 $, mais il faut payer des billets d'avion pour y aller.
Ouais.
Puis là, tu te dis, bon, es-tu vraiment capable de vendre 800 $ de livres?
Ouais.
Puis après, je pense qu'on a vendu pour 1500. Donc là, on était comme, waouh, c'est possible, genre, de rentrer dans ces... Mais c'est pas... c'est très stressant quand on commence comme ça.
Et du coup, aujourd'hui, enfin, vous l'avez créé en quelle année? Enfin, tu l'as créé en quelle année?
Ça a été
2015. Ok. Et donc maintenant, vous avez combien de livres?
Là, pour l'instant, j'ai plus ou moins 15 livres sur la table. Mais l'idée, en fait, c'est que à chaque fois qu'il y a une foire, en fait, je me dis bon, j'y vais. Et ensuite, je contacte des gens à gauche, à droite. C'est tout le temps un peu comme les 6 derniers mois. Quel livre, quel lancement de bouquins de gens que je connais qui sont vraiment cool et tout, mais que je sais que c'est pas distribué parce qu'ils ont peut-être pas d'ISBN, parce qu'ils ont pas l'effort à mettre pour ça. Et du coup, j'ai contact et ensuite, je fais une sélection. Donc, ça évolue tout le temps, mais il y a toujours des livres, en fait, qui restent. Dans le sens où j'ai toujours des stocks de livres sur lesquels j'ai travaillé, mais aussi j'ai des stocks, j'ai des livres qui sont en rupture. Donc à partir de ce moment-là, je peux mettre plus de livres sur ma table, soit des nouveaux livres sur lesquels j'ai travaillé, ou soit des nouveaux livres d'amis, en fait, qui ont sorti récemment des bouquins. Donc c'est toujours en évolution, en fait.
OK. Et du coup, toi, comment tu relis ça? Est-ce que ça a un lien? Enfin, Bon, dans l'ordre déjà, combien de temps par exemple ça te prend toi dans ton quotidien de graphiste avec ton side job et tes side jobs et tout combien de temps ça te prend ce travail de
self-publisher, self-distributor. Ça dépend. Ben, c'est très sporadique d'une certaine manière, dans le sens où, genre, tu sais, comme j'ai mis avant Offprint, je me suis pris plus ou moins 2 semaines. J'ai eu une semaine où j'ai dû faire que de la reliure. Non, peut-être moins, en fait. Mais ouais, 2 semaines en incluant la foire, admettons. La foire, c'est 4 jours plus le transport 2 jours, donc 6 jours. Puis ensuite, alors j'ai 3 jours où j'ai fait que de la reliure, j'ai commandé des mugs sur Internet, des cartes de visite, des trucs comme ça. Puis aussi, j'ai peut-être 3 jours où, en fait, c'est qu'envoyer des emails, que faire du vélo dans Amsterdam pour récupérer des boîtes d'olives, comprendre que finalement, dans telle boîte, tu peux la trouver. Genre, je me fais aussi des trajets parce que maintenant, j'habite assez loin du centre, donc je me fais 30 km en journée, il faut que je passe par 4 lieux. Donc, à la fin de la journée, oui, il faut quand même que je calcule que c'est une journée. C'est juste récupérer des livres. C'est aussi des livres. Tu vas donner des livres après au retour. Tu vas envoyer des emails pour dire, bon, alors j'ai vendu tel. Aussi, genre, comme je trouve que c'est assez important d'être assez transparent, dans le sens où il y a beaucoup de bookshops, en fait, qu'après une foire, ou, en fait, en tant qu'auteur, tu peux même pas vraiment savoir combien de livres tu as vendu des fois, en fait. Tu attends 6 mois pour avoir l'état, en fait. Donc, moi, directement, quand je reviens de la foire, j'envoie des emails à tout le monde pour dire tel montant de livres vendus, tel tarif, et ça, c'est le montant que je te dois. On peut s'arranger dans les prochaines semaines. Tu envoies une facture à telle adresse. Prend du temps.
C'est un travail de gestion. Et du coup, est-ce que ce super, n'intervient que dans des foires ou est-ce qu'il y a aussi des magasins? Enfin, est-ce que quand tu dis distribution, c'est distribution au sens large ou c'est distribution plutôt dans les événements comme celui-ci?
C'est surtout dans les événements. Mais en même temps, ce que j'aime bien avec les événements, ce qui est intéressant, c'est que ça donne accès aussi à des bookshops ou à d'autres choses, en fait. Par exemple, à New York, il y a Printed Matter et Ooga Booga qui, à chaque année, achètent des livres. Aussi, il y a la SAIC, School of Art, mon Dieu, c'est l'école d'art de Chicago, qui a un John Flaxman, je crois. Ah, bref, ils ont une grosse bibliothèque. Grosse bibliothèque de livres, une collection de livres d'art. Et à chaque année aussi, ils prennent des livres pour nous, enfin de nous. Et ensuite, c'est drôle parce que par la suite, on peut faire des recherches dans leur inventaire et on voit nos publications. Donc, c'est assez gratifiant. Donc, ça permet d'avoir accès à toute cette espèce de milieu professionnel, cette sphère, en fait, production culturelle. Et on se rend compte aussi, des fois, ça crée des liens dans le sens où, bon, moi, je suis aussi designer graphique, je suis développeur de site web. Donc, forcément, je peux rencontrer des gens qui, potentiellement, avec qui je peux travailler par la suite. Puis aussi, bah, des fois, on est invité aussi à d'autres événements un peu en parallèle, c'est-à-dire des lectures, des événements qui... Non, lectures, pardon, des... readings, je sais pas, des conférences, des événements en fait publics où on peut justement interagir avec des gens.
Et du coup, c'est vrai que donc cette maison d'édition qui n'en est pas une, je ne sais pas tellement comment la définir, cette maison de distribution peut-être.
Ouais.
De fait, vous permet d'exister en fait sur la place,
public,
sur l'espace public, dans l'espace, sur la scène internationale du graphisme en fait. C'est ça.
Ouais.
Le but, en fait, on pourrait dire, non?
Ouais, je pense que c'est assez bien formulé. C'est vraiment, ça nous donne une visibilité puis un accès, en fait, à des gens. Puis c'est aussi, comme aussi je me disais à un certain moment, bon, je l'ai fait quelques années, peut-être c'est plus... En fait, je me demandais si c'était encore nécessaire de le faire. Et en même temps, je me dis, bon, je pense que ça vaut la peine de toujours comme être présent, en fait. Et aussi, d'une certaine manière, au début, tu rencontres des gens et à la fin, c'est peut-être plus que tu fais partie d'une famille ou en fait, tu... t'entretiens des liens, en fait, plus que de créer des liens. Mmh. Donc, finalement, c'est bien.
Et je trouve que c'est assez marrant de t'entendre parler de tout ça parce que ta pratique, par ailleurs, s'intéresse beaucoup au travail, au code du travail.
Ouais.
Et quand tu nous parles de tout ça, c'est vrai qu'il y a toute une organisation du travail qui se développe autour de ça. Est-ce que c'est des liens que tu fais, toi, au quotidien ou est-ce que c'est un peu...
C'est sûr que je fais c'est des liens que je fais au quotidien, mais c'est un peu genre... mon Dieu, c'est une conséquence un peu de mon approche, de ma recherche. Donc, des fois, j'ai l'impression même que je suis un peu trop self-aware. Puis je me dis, bon, merde, ça va trop loin. C'est, quand tout devient du travail, mais c'est parce que c'est une sphère, c'est une loupe. C'est-à-dire, si tu regardes tout sur la loupe, en fait, théorique, du travail, ben là, tout devient du travail. C'est-à-dire que, genre, comme le leisure, genre le divertissement, c'est une forme de travail dans le sens où ça te permet de recharger les batteries pour travailler par la suite. Donc, si c'est une, sur une conception très, genre, un divertissement qui se consomme. Mm-hmm. Ça, Adorno, il a écrit un essai « On free time », mais en même temps, Adorno, on peut très bien le critiquer parce que, bon, il a le temps. Lui, il a le temps, tu sais. Mais, ouais, non, c'est sûr que... Ouais, c'est bien parce que là, en fait, à chaque fois que je dois présenter ce projet-là, de bon, je suis une maison d'édition, un label. Label, c'est un terme que, ouais, parce qu'on utilisait des slash à un moment à chaque fois pour. Mais en fait, je suis très transparent en fait, sur la manière dans laquelle on opère. Puis aussi, j'en fais un peu un statement. On avait fait une présentation à Print Room à Rotterdam et j'ai un peu joué avec les codes amateur versus professionnel. Et j'avais un peu joué avec l'esthétique, c'était un peu limite, genre, c'était genre art fair for dummies, et en même temps, je prenais un peu une espèce de vernis très hyper capitaliste, en fait. La production culturelle, genre le produit culturel, vendre des livres, et un peu genre la frontière...
Et vendre des tasses aussi.
Vendre des tasses, oui,
les
mugs.
Ouais. Ouais,
mais en même temps, enfin, c'est qu'il faut que tu fasses un certain profit pour payer la table. En fait, parce que l'idée, c'est même pas vraiment de faire de l'argent, dans le sens où... quand tu sors de la forte, et bon, j'ai passé 4 jours, j'y suis comme quelqu'un qui sue beaucoup, je sais pas. Puis au final, ben, j'ai pas vraiment fait de l'argent. Mais l'idée, c'est de pas en perdre, parce que si, en fait, si t'es pas sustainable, tu peux juste pas continuer. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui pourraient forcément, si t'as une rente, ou je veux dire, si t'as une certaine stabilité financière qui fait en sorte que des questions pécuniaires comme ça, ça te touche pas personnellement, c'est sûr que tu peux faire tout l'effort du monde, il n'y a pas de problème. Mais dans mon cas, en fait, même je dirais dans la situation de beaucoup de gens en fait, qui étudient en école d'art, et par la suite, ils sont montrés, tu sais, ils viennent dans une foire de livres, c'est beau, c'est magnifique et tout, mais la question, en fait, monétaire est importante à un certain moment parce que ces gens-là, je veux dire, si c'est un domaine dans lequel ils veulent vraiment s'engager, ben, il faut qu'ils comprennent aussi qu'il y a des trade-offs à faire, en fait. Il y a des choses que tu peux te permettre, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre, il y a des choses que tu peux te permettre à certaines conditions. Donc, c'est ça, j'essaie d'être assez transparent quand je présente ce projet-là. Puis aussi, j'espère que ça motive un peu les gens aussi quand ils nous entendent parler. Pas souvent, c'est des gens... je veux dire, il y a des gens dans le même milieu que toi, mais il y a aussi beaucoup de gens, en fait, qui, quand ils viennent t'entendre, c'est parce que... c'est souvent des étudiants, donc des gens en fait qui sont intéressés par le milieu, donc qui vont s'engager à un certain moment. Donc c'est important aussi de... Parce que souvent, en fait, c'est ça. Quand tu vas voir des présentations comme ça, t'as un vernis, en fait, mais c'est même... C'est toute la question de l'argent, en fait,
oui,
et éviter.
Oui, toujours, oui, c'est sûr, ouais. C'est sûr. Et toi, est-ce que, par exemple, donc... Là, effectivement, tu le relis à tes recherches qui sont liées au travail... Déjà, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, parce que je sais pas si... Enfin, voilà, moi, du coup, je t'interroge là-dessus parce que je connais, mais je sais pas si les personnes qui nous écoutent savent bien, connaissent bien cette...
Je pense pas, dans le sens où... En fait, c'est drôle, parce que je suis assez cryptique un peu dans mon approche de démonstration publique. Mais moi, ouais, en fait, ça fait plus ou moins 2 ans et demi que j'ai un... En fait, j'avais eu un grant avec Emily, qui n'était pas énorme, mais quand même, c'est généreux, on va dire. Et on a fait un projet, et en fait, on a dépensé tout l'argent du projet pour la production du projet. Donc, on a fini, on n'avait pas de rémunération. Tu passes, du coup, quand tu obtiens un fonds public, tu signes un commitment. Donc là, tu es commis à faire ça, en fait. C'est comme un pledge,
c'est un
promesse.
Engagement.
Exactement.
C'est un engagement.
Ouais. Et donc, bah oui, là, à partir de ce moment-là, c'est un peu genre, bon, soit on a dépensé cet argent pour produire ça, mais là, on ne peut plus payer notre loyer, donc là, ouais. On fait quoi? Et donc là, c'est là où j'ai commencé à travailler dans un call center de manière un peu plus, je dirais, régulière. Et par la suite, je trouvais ça bizarre, en fait, que tous les gens dans mon milieu, en fait, ne voulaient pas parler de ce qu'ils faisaient à côté. En fait, tout le monde avait... J'avais l'impression que tout le monde... made it, you know? Genre, ils ont tous succeed after art school. Génial. Et moi, je travaillais dans un call center, puis là, je devenais obsédé. Je trouvais ça génial, en fait, de rentrer dans cette espèce de cubicule avec mon headset et mon boss qui fait genre, today we're gonna sell, today we're gonna sell. Puis là, genre, il y avait The Winner Takes It All écrit sur un mur et tout. Il fallait faire genre 200 appels par jour. C'était super anxiogénique. Je mentais ou j'appelais, je disais des trucs, je me faisais passer pour des choses. Puis il y avait un jeu de séduction sur la voix et tout. Et on faisait du yoga, 15 minutes de yoga. Il fallait chanter des chansons pour se rappeler des métriques. Des trucs, c'était super... C'était l'opposé. Mais en même temps, je me disais, mais c'est bizarre, en fait, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais c'est, on opère cette compagnie-là et en même temps, y a plein de domaines qui fonctionnent totalement différents, en fait, de ce côté quand tu fais l'école-là, on va dire. Mais par la suite, en fait, c'est ça, j'étais assez transparent, puis je trouvais ça assez... en fait, j'avais envie justement de rendre ça visible au lieu de faire semblant que ça n'existait pas. Puis par la suite, ça m'a justement... J'ai fait ce bouquin-là, en fait, sur le call center que j'ai appelé « Where I love the sound of your voice is not a pick-up line, but sometimes... » Enfin, quelquefois, c'est un peu un pick-up line. Enfin, bref, c'est comme le jeu de la voix et tout. Mais par la suite, c'est ça. Quand je suis rentré à la Sandberg, en Critical Studies, j'ai focusé, en fait, justement, sur le travail. Et en fait, déjà, l'idée des side jobs, du langage, en fait, de dire, genre, ma personne... pas de personnalité, mais de... jouer des rôles, en fait, performance, autant performer, mais que jouer un rôle de faire une performance, en fait. Et ensuite, ça m'a aussi... Bon, je me suis beaucoup intéressé au travail, c'est sûr, au niveau des industries culturelles, dans la production culturelle, donc l'idée, en fait, de toujours travailler, jamais travailler, le mélange entre la vie personnelle et publique, de dire qu'on se connaît dans la vie privée, tu peux dormir sur le canapé de mon appart à Amsterdam, ça peut arriver une fois, puis là après, genre, on s'interviewe comme ça à la radio. Mais tu sais que, je sais pas, c'est les emails 24/7, comment aussi le téléphone, en fait, comment l'idée, en fait, le droit à le droit à la déconnexion. J'avais écrit un texte sur le droit à la déconnexion. Donc, ouais, en fait, le travail genré, le travail domestique, le travail reproductif, tous ces aspects du travail, en fait, qui se recoupent, qui se rejoignent, en fait, qui sont des strates, en fait, que tu peux penser de manière aussi plurielle ou intersectionnelle, on va dire. Et ensuite, quand tu réfléchis à ta condition, en fait, de personne, en fait, où tu sais que tu fais un travail ou tu produis quelque chose, il y a une strate d'exploitation, en fait. Il y a quelqu'un qui génère, en fait, il y a quelqu'un qui gobe la valeur de ton travail. Mais en même temps, toi, genre, tu bénéficies de certains travaux, en fait, que tu vois pas ou qui sont cachés. Genre, par exemple, genre, je sais pas, si tu. Admettons, je prends l'exemple d'un freelancer, on va dire, qui mange beaucoup de plats congelés ou de Deliveroo, on va dire, et qui a plus le temps de laver son appartement parce qu'il fait trop de freelance. Ben là, déjà, tu vois qu'il y a des layers, en fait, où il outsource son travail à d'autres personnes qui sont dans une condition qui est moins en haut que lui. Mais en même temps, cette personne-là peut très bien, en fait, se plaindre parce que... Enfin, il y a tellement de layers que ça... Vraiment, en fait, c'est... C'est un peu l'aspect de ma recherche, en fait, c'est d'essayer de considérer toutes ces layers-là, en fait, et d'highlighter, en fait, les questions de privilège qui sont liées à ça. Mais aussi des questions de privilège, mais de, mon Dieu, pas contestation, mais en fait, que tu peux toujours claim quelque chose, en fait, tu peux dire, tu as le droit de te plaindre, en fait, d'une certaine manière.
Ouais, revendiquer.
Exactement, exactement.
Revendication. Mm. Je trouve ça assez intéressant, finalement, ouais, comme je le disais juste avant, de t'entendre parler de cette recherche ou de savoir même qu'elle existe d'une part et de t'entendre parler de super, 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 super d'autre part, parce que c'est vrai qu'il y a des liens qui se créent immédiatement, mais est-ce que tu aimerais que ce travail dans cette maison de distribution, maison d'édition, devienne ton vrai travail, c'est-à-dire ton full-time job?
Non.
Non?
Non. Je pense que non, vraiment. Non, vraiment pas, en fait. Je pense que c'est un peu, pas un mythe ou un rêve, mais genre, je sais pas, dernière année d'école d'art, je me disais, je pourrais fonder ma propre maison d'édition, mais il faut que tu le trouves. Il faut vraiment que t'aies... Moi, je trouve ça vraiment difficile d'avoir une certaine rigueur et d'avoir du bon matériel tout le temps. Tu sais, il y a un moment où tu t'épuises, puis tu fais des livres, bon, c'est rendu un peu moins... Ou peut-être aussi, peut-être que pas, mais je sais pas, en plus, c'est tellement compliqué. Il faut tout le temps que tu aies du funding, il faut que tu travailles avec des gens aussi. Genre, c'est très serré, en fait, au niveau budget, mais tu veux travailler avec des gens qui sont bien. Donc là, comment tu fais pour concilier tout ça? Puis en plus, tu dois gérer la distribution. Il me semble que ça doit être le pire, non? Mais la raison pour laquelle je le fais, c'est clairement parce que ça... C'est la manière de revendiquer notre visibilité, en fait.
Ouais.
Si j'avais un bon ami qui serait comme moi, qui voudrait faire ça, je pense que je lui ferais juste confiance. Mais j'ai trouvé personne. Tout le monde, les gens à qui je parle, ils trouvent ça vraiment chiant d'être derrière une table. Il faut passer 4 jours d'affilée, 10 heures par jour,
à sourire à des gens, à faire oui, bonjour, ça c'est le livre X, Y, Z. Non, mais je veux dire, je pense, enfin, non, je ferai toujours à temps partiel, mais pas à temps plein, je pense pas, non.
Et vous n'avez pas beaucoup de visibilité sur Internet, si?
Non, ça, c'est peut-être quelque chose à travailler plus. En fait, l'idée...
Ouais, c'est étonnant, en plus, avec ouais. cette question de distribution d'aujourd'hui, de ne pas utiliser Internet.
Ouais, en fait, l'idée, c'était vraiment... le premier site web que j'ai fait, en fait, c'est pour pas prétendre exister, mais c'est-à-dire qu'admettons, avec Internet, maintenant, les gens... T'sais, il peut être à l'autre bout du monde, puis là, il regarde, il voit ton site, ta maison d'édition, ton travail, puis il pense que t'es big. Ouais. Pardon. Qu'ils comprennent pas la réalité. Enfin, il y a une réalité, en fait, qui ouais. leur échappe. Et en fait, la première
fois... C'est tout l'avantage d'Internet.
Exactement. Mais la première fois auquel on était allé, c'était à New York, et donc l'idée, c'était de faire semblant qu'on était une vraie maison d'édition. Oui. Donc, on s'était monté un site web, il y avait des prix de vente et tout, mais en fait, tu pouvais acheter des trucs, mais il n'y avait rien à acheter, en fait. C'était tous des liens buy, mais qui envoyaient un email, puis on n'avait jamais vraiment eu l'intention d'envoyer de faire des ventes pour vrai. Par la suite, à partir de ce moment-là, on s'est fait inviter à d'autres foires, mais juste parce qu'on était à une foire auparavant. Donc, on avait déjà comme obtenu une certaine légitimité. Puis là, quand on s'est mis à faire le site web, alors on avait deux directions. J'avais travaillé un moment sur un site web avec un webshop et tout. Et au final, l'idée de faire du shipping, genre à chaque lundi ou à chaque jour, ça a commencé à devenir, à nous rendre un peu anxieux.
Ouais, d'envoyer par la poste tous les ouvrages, de devoir faire la gestion postale.
Il y a beaucoup de gens, des bookshops qui délèguent à des stagiaires non rémunérés. Ouais. Donc, c'est très important de souligner aussi que les livres, la manière dont ils sont expédiés. Nous, on n'avait pas envie vraiment de s'engager là-dedans. En fait, c'est ça. On avait quand même fait un site web, mais qui est très... Qui est très obscur, dans le sens où on voit juste une publication et en même temps... par la suite, on n'a jamais eu de problème. Mais cette année, par exemple, pour New York, il y a eu un changement aussi curatorial. Mais c'était la première fois où, en fait, j'ai été refusé à une foire. Donc, ça me fait un peu re-questionner. On me dit, bon, peut-être qu'il faut que je passe au webshop. Peut-être qu'il faut que je devienne legit pour vrai. Peut-être qu'il faut que je fasse plus de travail au niveau de ma présence web. C'est une bonne question, en fait. Je ne sais pas si ça vaut la peine de mettre toute l'énergie là-dedans ou pas. Ou peut-être qu'il faut juste que je trouve un nouveau moyen de sneak in par le côté. Je ne sais pas trop.
OK. Et donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite, alors?
Je sais pas. De toujours être présent, puis aussi que les projets éditoriaux. J'ai des amis qui travaillent sur des projets qui restent assez intéressants, et moi aussi, j'ai beaucoup d'amis en fait qui ont obtenu un support un peu plus considérable, on va dire. Je dirais d'institutions culturelles aux Pays-Bas. Donc, ça veut aussi dire des travaux. Qui pourront être publiés dans un futur proche. Donc ça, je trouve que c'est assez bien.
Et donc
bien.
Distribué.
Exactement.
Très bien. Eh bien, merci.
Ça fait plaisir. Merci à toi.
De rien. Et on se retrouve juste après, donc dans une petite demi-heure, avec Triangle Books. Pardon, j'ai un peu de... À tout à l'heure.